Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bien, nous allons ouvrir une page de notre Bible. En fait, c'est deux lectures, mais nous allons la faire dans le Nouveau Testament. La première, Épître aux Galates. Épître aux Galates, lettre de Paul aux Galates, on peut dire cela de cette manière, chapitre 4, et un verset qui va nous situer, qui va nous donner, eh bien, en quelque sorte, le sens de notre prédication, de notre message. Voilà. 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, je vais le relire parce que c'est quand même intéressant. Hein, c'est ce qui va articuler, eh bien, là, le corps de notre réflexion ce soir. C'est Paul qui écrit ça. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors ça, c'est notre première lecture. Nous allons en prendre une deuxième qui est aussi courte. C'est dans l'épître, la lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et nous avons cette partie de ce paragraphe, enfin de ce verset. Il est dit ceci, et là vous le connaissez, hein, je pense qu'on peut le restituer de mémoire les uns et les autres, et on se l'approprie certainement dans notre vie. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui, et il prend soin de vous. Quel est le père dans une famille qui voit son ou ses enfants dans l'embarras, dans la difficulté, et qui va mettre tout en œuvre pour les secourir, pour leur donner ce dont ils ont besoin, pour leur donner le secours si nécessaire. Parce que ce sont ses fils et ses filles, parce que c'est son fils ou sa fille. Il y a un privilège, finalement, d'appartenir à une famille. Et nous ne sommes pas dans l'isolement, nous ne sommes pas, eh bien, livrés à nous-mêmes. Malheureusement, hélas, dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'infortune et qui ne peuvent se tourner que vers les services sociaux. Heureusement, ils sont là. Mais ça ne remplacera jamais, finalement, eh bien, la qualité que nous pouvons nous revendiquer, si nous avons des parents terrestres. Et cette qualité dans laquelle nous allons justement, eh bien, plonger nos regards, cette qualité d'être enfant de Dieu, fils et fille de Dieu par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Et quand on regarde simplement ces petits versets, parce que bon, ils semblent anodins, on les prend les uns après les autres dans la lecture finalement d'un paragraphe, d'un texte, d'un chapitre, mais il est affirmé que tu n'es plus un esclave. Ça s'adresse à des chrétiens, mais ça peut s'adresser aussi finalement à tous ceux qui sont à l'extérieur pour leur dire, mais si vous le voulez, parce que nous l'avons voulu, mais si vous le voulez, vous ne connaissez pas votre bonheur. Vous ne connaissez pas les possibilités infinies de notre Père céleste, de notre Dieu. Alors, parce que tu es fils, eh bien, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Héritier de quoi ? Héritier de tout. Pour la vie présente et pour la vie future. Ça, bien entendu, hein. Tu es héritier. Alors, il y a deux mots que j'aimerais mettre en parallèle, les associant en quelque sorte. C'est le mot évasion et le mot refuge. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot évasion ? Ça évoque une sortie de prison. Tu n'es plus esclave. Une sortie de prison, et naturellement, une fois que tu as passé, eh bien, les portes de fer, hein, parce que bon, c'est bien gardé. Alors à ce moment-là, tu découvres un autre monde qui est celui de la liberté. Et voilà. Donc évasion, s'évader de quelque chose, sortir de prison, et puis de découvrir la liberté. C'est finalement ce que nous propose tout l'enseignement du Nouveau Testament, Jésus en particulier naturellement, repris par les disciples, les apôtres, pour leur dire « Mais attendez, est-ce que vous n'auriez pas oublié qu'il n'y a plus de condamnation parce que vous croyez en Jésus-Christ ? Que finalement vos péchés sont absous, ils ont été oubliés, ils sont oubliés au présent, hier, aujourd'hui, éternellement, et que, vous avez un nouveau titre maintenant, vous n'êtes plus des gens de ce monde sans espérance, mais vous êtes, vous faites partie, de la maison. » Alors ça, c'est le mot évasion. Et puis il y a le mot refuge, parce que c'est un sens tout à fait particulier. On ne sort pas de nos misères, de nos malheurs, pour aller je ne sais où, à errer tout à nouveau et recommencer, peut-être pour retourner en prison. Non. On a parlé de liberté, mais une vraie liberté. Pas celle qu'on a dans la tête seulement, celle que l'on rêve, mais une liberté réelle qui nous est donnée. Alors naturellement, en sortant de cette situation, vous savez que pour les gens qui sont incarcérés après de longues peines, courtes ou longues, il y a tout un service de réinsertion. On en parle beaucoup en ce moment. Avant, ceux qui sortaient de prison, on leur dit, ils étaient un matin ils étaient contents, mais ils étaient sur la rue là, à la porte de la prison, et puis débrouille-toi. Alors il y a naturellement, c'est le risque de récidive et puis de recommencer parce qu'ils n'avaient rien pour vivre de toute façon. Alors il y a naturellement cette évasion. Et puis il y a le mot refuge. Et le mot refuge, figurez-vous, on a des exemples dans la Bible, mais je les prendrai pas ce soir. Ça donne l'idée de la protection et de la sécurité. Eh oui. Je retourne à la maison de mon père. Ça vous rappelle rien, ça? Un fameux fils prodigue. Il est sorti pour penser avoir la liberté. Finalement, il a trouvé la misère et le malheur. Il s'est retrouvé lui-même dans une propre prison dans laquelle il s'est renfermé. Puis à un moment donné, il s'est mis à réfléchir. Puis il a dit, moi, je retournerai. Je retournerai vers mon père. Voilà. Et il est retourné à la maison. Et figurez-vous, peut-être que, contrairement à ce qu'il aurait pu peut-être penser, il a été accueilli. Malgré ce qu'il avait été, malgré ce qu'il avait fait, malgré la dilapidation de l'héritage, toutes sortes de choses. Alors il y a l'idée, naturellement, d'évasion d'un côté et de refuge de l'autre. Et c'est une protection et c'est une sécurité. Le thème que nous voulons développer ce soir, partager ensemble, c'est que, et vous le savez très bien, c'est que tous les prisonniers de guerre, alors il y en a aujourd'hui, il y en a qui sont entre les mains de Daesh, d'autres qui sont entre les mains de je ne sais quel, un pays totalitaire dont nous entendons souvent parler, ils pensent être libres, mais ils sont finalement, à partir du moment où un citoyen ne peut plus quitter son pays, c'est qu'il est quand même quelque part en prison. Et ça a été des millions et des millions de gens à différentes époques, et on sait très bien que tous les prisonniers de guerre sont dans la dépendance et sous le contrôle de leur ennemi. Ceux qui ont été déportés pendant ces temps terribles du siècle dernier, c'était pas un fil barbelé, c'était des murs de barbelés. Et ça existe encore, le barbelé. Je sais pas qui c'est qui l'a inventé en tous les cas. Il a fait fortune, le gars. Excusez-moi, cet inventeur. Mais c'est vrai. Et c'est non seulement des barbelés, mais il y a de l'électricité, il y a toutes sortes de choses. Quand on veut pas que les gens sortent, c'est comme ça. Donc, le prisonnier, quand il a été vaincu par un ennemi, et qu'il est prisonnier, et qu'il est mis, finalement, dans des camps, on appelle ça des camps, c'est terrible, des camps de concentration, on les concentre ensemble, alors ils sont sous contrôle, et ils sont sous la dépendance totale, complète, de celui qui les a vaincus, et qui décide de leur vie, de leur mort, qui décide s'ils vont travailler ou pas, travail forcé ou autre chose, et ils vont décider de leur vie de captivité. Tu sors ou tu ne sors pas, tu restes là et puis c'est tout. Voilà, ça c'est une vie très restreinte, c'est une vie très limitée naturellement. Et on peut se poser la question et on peut le mettre au sens où finalement nous vivons dans un monde qui crie sa liberté à corps et à cri, on peut dire ça comme ça. Et on s'aperçoit que finalement les gens sont beaucoup plus captifs qu'on le pense, parce que quand on leur demande pour des choses anodines, si tellement anodines, que quelque part on dit vous pouvez pas délaisser ça, vous pouvez pas abandonner ça, ça vous coûte cher, enfin vous voyez à quoi je veux faire allusion, ils disent non, je peux pas m'en passer, c'est pas possible, d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et peut-être même le mettre à un certain niveau, pour des chrétiens qui n'ont pas encore réglé certains problèmes, Quel est l'ennemi qui nous a captivés? Quel est celui, cet ennemi, on le connaît, hein, mais quel est cet ennemi et qui finalement a mis notre vie en limite, ou l'a réduite, ou tout simplement, nous empêche de trouver notre épanouissement, hein. Quand il est dit, vous êtes aussi héritier par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que tout nous appartient. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Hein, là, il n'y a pas de restriction, naturellement. Et puis, on le voit dans ce fameux psaume 23. Bon, extraordinaire, ce psaume. On a dit que c'était véritablement le summum des psaumes. Mais c'est vrai, je pense que, quand l'Éternel est mon berger, et ceci et tout le reste, hein, c'est quelque chose. Et justement, il faut savoir aussi, autant pour nous que particulièrement peut-être ceux qui sont à l'extérieur, mais de quelle nature est notre ennemi? Est-ce que ce sont des chimères? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un spectre qui vient nous hanter, nous troubler d'une façon jour et nuit? Je ne sais pas. Alors, souvent, nous avons une réaction, nous les humains, c'est de tenter de fuir, c'est-à-dire ce qui nous captive, ce qui nous obsède, ce qui nous domine, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend triste, c'est-à-dire de lui échapper. C'est pour ça qu'on parle d'évasion. Alors, c'est vrai. Les gens essaient de trouver des portes de sortie, des issues, ils essaient de... Comme un prisonnier, il essaie de s'évader. Et ça peut être mis dans une certaine dimension moindre, peut-être d'un enfant de Dieu qui n'a pas réglé tous ses problèmes. Et qui là, est tourmenté, et il se dit, mais bon, je suis comme ça, mais je suis malheureux, mais bon, je veux rester comme ça. Et puis, quelquefois, ça peut nous arranger de rester comme ça, mais on est malheureux. C'est bête, hein. C'est vrai que c'est sot comme histoire, hein. Mais tenter de fuir cet ennemi, lui échapper, c'est-à-dire de nous évader de son emprise. Alors il y a des jours ça va, on n'a pas de problème particulier, et puis d'un seul coup ça vient à la faveur de circonstances, à la faveur de choses qui nous reviennent, de souvenirs, enfin, ou des crises. Hein, on peut parler de crises. Sortir, échapper à son emprise, hein, parce que c'est une domination. Bon, on sait très bien que la réponse pour le lecteur attentif de la Bible et celui qui familiarisait avec l'Écriture sainte, Paul nous dit, attendez, c'est pas la chair et le sang, c'est pas seulement la nature humaine. Bon, le péché, enfin le mal qui existe là, à l'intérieur de nous-mêmes et puis autour de nous. Non, mais attendez, il y a quelque chose, un ennemi qu'il faut identifier, c'est que cet ennemi, il a une autre dimension, ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Avec domination, principauté, autorité, qui finalement, donc le but avoué, l'objectif avoué, c'est de rendre des gens malheureux, et qui plus est, les chrétiens. Et pourtant, nous sommes des fils, et nous avons un héritage. Et cet héritage nous est donné par grâce, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Et c'est à nous d'en profiter et de le saisir. Alors, est-ce que l'on connaît vraiment l'ennemi? C'est ça la question. Moi, je n'ai pas la propension à vouloir vivre avec lui. Je me suis échappé il y a quelques années de ça. J'ai pas envie d'y retourner parce que je savais ce que j'étais avant et ce que je suis devenu. Non pas que le contentement c'est parce que j'ai réussi et que finalement c'est par mes propres forces, c'est parce que justement c'est la grâce de Dieu qui m'a amené. Mais j'ai pas oublié le souvenir quand même de ce que j'étais auparavant. Voilà. Alors est-ce que nous connaissons cet ennemi qui nous tient, qui vous tient? Et qui nous retient, parce que on peut toujours mettre toutes sortes de raccordements aux mots, Il tient les hommes, mais en les tenant, il les retient. C'est-à-dire qu'ils ont toujours à tourner en rond, comme les Hébreux, vous savez, dans le désert là du Sinaï. Dieu leur avait dit maintenant, vous allez rentrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Puis finalement, on se demande pourquoi, par incrédulité, parce que c'est ça le gros problème des Hébreux dans le désert, c'est que en refusant de faire une chose qui finalement était tellement simple, parce qu'ils voyaient, nous on voit pas, mais eux ils voyaient les miracles, ils voyaient finalement les prodiges de Dieu, et malgré ça, ils refusaient de croire, ils étaient toujours en train de murmurer, de dire, on n'avance pas. Alors, on peut dire que, l'ennemi, ils en avaient quitté un qui s'appelait Pharaon, l'Égypte, l'Empire égyptien, mais d'un autre côté, ils s'en étaient mis sous un autre, c'est-à-dire que leur ennemi, c'était celui qui manipulait du haut du ciel, mais c'était aussi celui qui était dans leur cœur, Ce qui est un accord entre celui qui est là-haut, et puis celui que je suis, quelque part. Un consentement, par faiblesse, par incrédulité, tout simplement parce que, on est prisonnier de nos raisonnements. D'ailleurs, il y a un apôtre qui dit « Ne vous trompez pas par de faux raisonnements ». Et pour sortir des faux raisonnements, des rêves, des chimères, de tout ce que nous pouvons échafauder, et qui finalement n'est que de la... c'est virtuel, et ça n'a aucune réalité, eh bien, précisément, il faut en être conscient de tout cela. Il faut savoir qui est notre ennemi, celui qui nous tient, et qui fait de nous son esclave. Hein. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que Dieu nous a donné la liberté, mais il y en a celui qui nous tenait avant, celui qui finalement était le grand marionnettiste, on en a parlé il y a quelque temps, eh bien, c'est pas pour rien qu'il le fait. C'est un défi à Dieu, mais nous sommes finalement, eh bien là, nous sommes utilisés par lui d'une manière ou d'une autre. Alors, de différentes façons, mais bon, à travers la faiblesse et le mal, et puis le péché de l'homme. Ennemi visible, ennemi invisible. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais dont la preuve est toujours une vie perturbée. Ouais. Une vie perturbée, une vie gâchée, une vie salie. Et chaque jour, eh bien, nous sommes toujours de plus en plus malheureux. C'est ça la question. Alors, on peut prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile parce que c'est la bonne nouvelle de la libération. Maintenant, en ce qui concerne les enfants de Dieu, où nous avons, bien sûr, passé la porte de la prison, on peut le dire, franchement, hein, on peut le dire, où nous sommes rentrés dans la liberté, nous avons un titre maintenant, nous avons une famille, nous avons un Père céleste, nous sommes des fils et des filles. Mais il y a encore celui qui essaie de nous titiller pour nous faire revenir en arrière. Parce que, quelque part, c'est ce qu'il veut, on l'a dit il y a quelques instants. Mais ça se mesure à quelque chose. Des vies qui sont perturbées, des chrétiens qui sont agités, des enfants de Dieu qui sont pas bien, voilà. Ou c'est en fonction de leur état d'âme. En fonction des circonstances, un jour ça va pas, etc., etc. Quand on est tout nouveau, appartenant à Jésus, on peut comprendre que ça peut se comprendre tout à fait. Hein, on y est tous passés, il y a eu des hauts et des bas, il y a ceci avant de trouver la stabilité. Mais quand au bout d'un certain temps, on est toujours aux prises avec nos craintes, nos peurs, nos frayeurs, nos effrois, etc., etc. Il y a quelque chose qui doit être réglé, hein, et le Seigneur veut nous aider. Donc, et même j'ai parlé tout à l'heure de vie salie. C'est vrai, parce que bon, s'il peut salir la réputation et peut salir l'âme d'un chrétien, il va pas gêner, hein, je peux vous dire. Et il sait très bien les appâts qui nous conviennent. Chacun, peut-être différemment, mais il sait très bien. Et quelquefois, eh bien, on peut mordre à l'hameçon, on mord à l'hameçon. Et ça nous rend malheureux. Ça nous amène une tristesse. Ça nous amène finalement, eh bien là, à être éteint. Quelquefois, on voit des chrétiens qui sont éteints. Il y a quelque chose qui brille pas, il y a quelque chose. On doit être heureux d'être chrétien, non? Ouais, je vois votre enthousiasme, ça me réjouit, hein. Hein, et donc, et sans la paix, sans la joie. Ouais. Dimanche matin, vous allez pouvoir donner libre cours, hein, complètement et totalement, à votre paix et à votre joie dans la louange. Je suis désolé, je serai pas là pour le voir. Enfin, je me réjouis à l'avance. Mais enfin, je vous donne l'information quand même auparavant, hein. Louez le Seigneur et bénissez-le. Ça va pas? Ben, bénissez-le quand même. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui change, parce que vous aurez pris une victoire sur votre ennemi, qui vous dit « Tais-toi donc, regarde les problèmes que tu as eu cette semaine, regarde ton manque d'argent, et puis ceci, tu t'es fâché avec un tel ou telle personne, tes colères, etc. etc. » Ben, louez donc le Seigneur, et prenez la victoire sur l'ennemi qui vous dit de vous taire. Lui, il essaie de souffler sur le lumignon, mais le lumignon qui est allumé, il fume, il s'éteint pas. Ouais, parce que quand la bougie s'éteint, ben, on voit plus rien. Et c'est vrai, hein, ça c'est triste hein, tout ça. Hein. Alors, il y a des cachots. Et vous savez, le mot cachot vient du mot caché, c'est-à-dire dissimuler, crypto, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Et quand on met les gens en prison, c'est qu'on les cache. On les cache pour les protéger, enfin, pour que la société soit protégée, c'est surtout ça. Hein. Mais il y a des gens qui sont innocents et qui sont dans les cachots, donc ils sont cachés, quelque part. Alors, ces cachots d'addiction, on parle aujourd'hui d'un mot qu'on n'utilisait pas il y a quelques dizaines d'années, hein, c'est le mot addiction. Le mot addiction, c'est des gens, et il y a même des médecines addictives, enfin disons contre les addictions, hein, des médecins spécialisés, et on va se confier voilà, en disant voilà, j'ai tel problème, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la sensualité, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Et les gens ils ne voient que ça. Ils ne peuvent vivre qu'avec ça, parce que bon, malgré qu'ils font profession de foi de dire j'arrête, 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 mais ils n'arrêtent jamais, ils ne peuvent pas arrêter. C'est pour ça qu'on a parlé d'évasion. Et on a parlé également, eh bien, de trouver un refuge. Alors, naturellement, tout cela, eh bien, ce sont des réalités. Ça peut être un péché qui n'a jamais été réglé. Mais le Seigneur veut que nous le réglions, ce péché. Qu'il soit un péché de sentiments, un péché. Alors, de sentiments, ça peut être l'amour et ça peut être la haine. Hein, ou l'amour passionnel, c'est pas bon non plus. Hein. Et puis, il y a toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être également nos faiblesses. Il y a des chrétiens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'y arrivent pas. Parce que finalement, on est encore au mois de juin, on fait encore au mois de janvier, on fait encore des vœux en ce moment. Hein. Voilà, il y a des gens qui... Ah, ça va aller. Hein. Mais ça fait 10 ans que ça dure. Et puis à partir du mois de février, ça recommence. Hein. Voilà, c'est la faiblesse. Mais le Seigneur compatit à nos faiblesses. Il ne veut pas que nous restions comme ça. Il n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Parce que lui, il est beaucoup plus patient que nous le sommes. Hein. Oh là là, c'est quelque chose. Hein. Alors, il y a toutes nos fautes que nous commettons. Le Seigneur veut que ce genre de choses répétées, ces fautes, ça peut être une propension au mensonge. Hein, on est normalement chrétien, on dit la vérité. On ne cache rien. On ne dit rien. Voilà. Et je crois que ça peut être ça. Il y en a, c'est parce que bon, ils ne sont pas débarrassés de la kleptomanie. Vous savez ce que c'est? Voilà. Ah oui. Vous savez qu'un jour, on a eu, il y a bien une dizaine d'années, on était dans un culte ensemble, là, ici, puis il y a une dame qui était au milieu de nous, certainement bien, elle n'a pas bougé pendant le culte, puis elle s'est approchée auprès, là, vous savez, après les offrandes, et on a entendu un grand cri, c'était Kader qui criait « Madame, qu'est-ce que vous faites ?» Elle avait déjà mis la main dans la corbeille des offrandes. Hop, on l'a vu passer. Voilà, j'ai même pas le temps de la bénir. Donc, kleptomanie, voyez. Faut remarquer, hein, faut le dire, j'en parlais avec mon épouse cette semaine. Je lui dis, faut le faire, hein, quand même, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est vrai, quand même. Quand même, après un culte et tout ça, bon, c'était quelqu'un peut-être de la région, là, enfin, certainement, hein. Puis elle s'est dit, oh, ils sont gentils, ces gens-là, ils doivent. Puis quand elle a vu que ça tombait bien dans la. Elle s'est dit, peut-être que, bon, moi, Seigneur, tu me permets, hein, je vais quand même prendre un petit peu quelque chose. Ah, ben. Kader qui avait les yeux partout, il lui a fait peur. Bon, alors elle a rien pris, mais c'est très bien. Mais c'est pour dire, les addictions, on peut pas s'en passer. Il y a des gens qui, c'est vrai, on a entendu ce genre de confession, hein, en disant que bon, voilà, je suis allé dans un magasin, mais je ne peux pas m'empêcher, finalement, de prendre quelque chose quand je vais là dans un supermarché, tout ça. Voilà. Bon, jusqu'au jour où on se fait avoir. Et il y en a certains qui se sont fait avoir. Hein. Et c'est heureux d'ailleurs qu'ils se font avoir. Hein. Mais quand même. C'est pour vous dire, on appelle ça naturellement les mauvaises habitudes, voilà, qui sont dans notre vie. On le sait, notre conscience nous le dit. On n'a pas besoin d'une révélation. Seigneur, montre-moi. Mais le Seigneur vous le montrera jamais, parce qu'on le sait dans notre conscience ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà. Alors tout ça, c'est bien des choses secrètes qui pourrissent notre vie, parce que quand on tombe, quand on chute, un chrétien, il va le regretter. Il va dire, oui, j'aurais pas dû mentir. Je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû cela, etc., etc. Mais ça pourrit notre vie, vous comprenez? On n'est pas bien après, on est... Ah, c'est comme si c'était une indigestion, vous comprenez? Ça digère pas, on a l'estomac lent, hein? Et ça passera jamais, hein? Il y a des réponses, on va les avoir, là. Alors, on pourrit notre vie, puis on pourrit celle des autres aussi. Parce que bon, voilà, il y a des choses qui dépassent un petit peu, ça déborde. Alors, nous avons besoin de prêter attention à quelques solutions que je voudrais que nous partagions maintenant. Quelques solutions. La solution, d'abord, il faut se le dire, elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Bon, partant de là, vous pouvez arrêter tous vos efforts parce que ça ne sert à rien. Je suis désolé, hein, mais on ne luttera jamais, on ne sera jamais en force contre le péché. Le péché va nous avoir toujours, le mal nous aura toujours, et le malin surtout, nous tendra encore et encore et encore des pièges. Si nous y croyons, nous sommes perdants. Que c'est naturel, que c'est par vos propres efforts, que c'est par vos propres vertus, c'est parce que, voilà, vous êtes consacré, etc., etc. Ça ne sert à rien. La solution, elle est spirituelle. Et elle vient de Dieu. Tu n'es plus esclave, mais tu es un fils. Voilà, tu es dans la maison de ton Père Céleste et tu es aussi l'héritier par sa grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à revendiquer, tout nous a été donné. Maintenant, c'est d'y croire ou d'y pas y croire, c'est tout. Hein. Vous savez que dans Jean, il nous est dit que, si ma mémoire est fidèle, que si le Fils vous affranchit, s'il vous donne la liberté, vous serez réellement libre. Vous connaissez ça, hein. C'est un texte très connu. Hein. Si le Fils, C'est pas un tel ou un tel, c'est pas un pasteur un tel, c'est pas un quelque moyen, soit-il finalement biblique. C'est pas ça. C'est seulement Jésus. C'est lui qui peut nous délivrer. La solution et le moyen de délivrance, eh bien, de toute dépendance. Parce qu'on parlait d'addiction, mais on peut transformer le mot, on peut parler de dépendance, chronique, cyclique. Vous voyez, il y a des choses qui sont chroniques, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et puis jusqu'à la fin de, voilà. Et puis, quelquefois, c'est cyclique. À un moment donné, on est en paix, puis à un moment donné, ça, pop, ça repart, et on se retrouve dans la même situation en disant, mais je recommence les mêmes choses. Alors, et d'être libéré passe par tout simplement Jésus. C'est le message essentiel et principal de l'évangile, hein. Ça c'est vrai. Jésus-Christ, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce verset que nous trouvons parmi des milliers de versets, c'est un verset clé. C'est un verset qui suscite la foi. Oui, Seigneur, j'ai fait mes efforts. J'ai essayé de prendre de bonnes résolutions. J'ai essayé de faire ceci et cela, mais ça ne mène à rien. Je n'y arrive pas. Et c'est, Dieu va permettre que nous n'y arrivions pas, pour que véritablement nous cessions de nous batailler. On en parlait vendredi soir. Hein. C'était la foi, mes combats, mes batailles. Et puis on s'aperçoit que finalement derrière, on n'arrive pas. C'est l'illusion finalement d'une foi religieuse, mais pas une foi spirituelle. Non, la croyance religieuse, on dit aux gens, écoutez, si vous faites ceci, si vous faites cela, etc., etc., Dieu va vous bénir. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça? C'est humain, c'est charnel, c'est tout, mais c'est pas spirituel. Alors, ça passe par Jésus, et comment? Alors, le comment, eh bien, on peut toujours y répondre, parce que c'est très simple, et on l'a vu il y a un instant, il est dit, tout simplement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, tu sais que j'ai tendance quelquefois à prendre ce qui m'appartient pas. J'ai tendance à me mettre en colère et à dire des choses qui sont pas belles, des choses qui sont sales, des choses qui sont laides, des choses qui sont pleines de colère et de ressentiment. Ça, Seigneur, tu le sais. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Déchargez-vous sur lui. Croyez que les oreilles de Dieu sont suffisamment, elles sont pures, hein. Mais il peut les entendre, hein, même si c'est de l'impur, même si c'est du sale, même si c'est du vil. Hein. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mon souci, c'est parce que je peux pas y arriver. Je peux pas me débarrasser de ceci ou cela, ça me tient et c'est quelque chose donc qui m'est difficile à supporter. Je voudrais donner quelques exemples, très rapidement. Il y a cet étrange état de misère chez une femme dont il nous est parlé de son problème. Oh la pauvre, ça c'était pas de sa faute, mais bon, il y a des fois c'est pas de notre faute, mais on est coincé, on peut pas s'en sortir, on est en prison. Et c'est dans Luc, je vais lire simplement quelques mots, vous allez reconnaître le personnage, c'est dans Luc chapitre 13, et au verset 11 il est dit ceci, « Une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Eh oui, courbée, elle ne pouvait pas se redresser. C'est ce que je viens de vous dire il y a un instant. Que quelquefois, cette femme a certainement, depuis tellement d'années, hein, infirme depuis 18 ans, elle a certainement dû faire des efforts, etc., etc. Bon, c'était physique. Mais quelquefois, c'est notre âme qui est courbée. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est tordu. Excusez-moi, mais c'est pas péjoratif. Mais et on peut pas, la courbure est là, on pleure peut-être parfois. Ouais, contre nous-mêmes. Parce qu'on se dit, je veux, mais je peux pas. Courbé, tordu. Ou je ploie devant quelque chose, ou je ne peux pas, finalement. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est l'image, finalement, de tous les efforts humains, charnels, même des croyants, je dis pas des chrétiens, mais des croyants, des religieux, qui font tout et qui n'arrivent pas à se redresser. Ils finissent par finir, enfin, ils connaissent une vie sans espérance, sans certitude et sans assurance. Ouais. Ben c'est comme ça qu'on était conduit et élevé, hein. Pas faire d'illusion, hein. Et on pensait qu'avec la force du poignet ou la force de la volonté, on allait s'en tirer. Hein. Ouais. Il y a une volonté, c'est la volonté de croire, c'est pas la volonté de faire. Donc voilà cette femme. Et Jésus va dire, mais cette femme, après l'avoir guérie, mais cette femme est une fille d'Abraham, c'est-à-dire une femme de foi, et que Satan tenait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne ? Ah, c'est Jésus qui dit cela. La solution, c'est Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Et voilà que Jésus va mettre le doigt sur la plaie, il va dire, cette étrange infirmité, elle est étrange parce que derrière, il y a un monde invisible. Alors, faut pas mettre tout dessous sur le compte du diable. On va en reparler, parce que quelquefois, il y a des chrétiens qui disent, mais c'était plus fort que moi, c'est le diable. Eh, oh, ça va, c'est bon, hein. D'accord? Non, parce que là, on peut, hein, c'est vraiment pas vouloir voir la réalité en face de ce que nous sommes. Hein. Et la repentance, c'est pas pour le diable, c'est pour nous, la repentance. Hein. Voilà. Alors donc, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Elle avait une chaîne dans le dos, invisible. Mais c'était une infirmité étrange, spirituelle. Et à un mal spirituel, il y a une réponse spirituelle. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'est pas la peine de faire autre chose. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une autre condition que j'aimerais justement évoquer devant vous. Une condition obligée. Un fardeau trop lourd à porter. Et quelquefois, nous avons des peines, nous avons des chagrins, nous avons des infirmités de l'âme, nous avons des maux de l'âme. Je pense à la dépression, au côté permanent négatif chez certains chrétiens, où ils ne voient que le mal, que le mal, que le mal, et qui n'arrivent pas finalement. C'est un fardeau pour les autres, mais c'est un fardeau aussi pour eux. Ils en souffrent. Quand ils voient les autres pouvoir avoir la liberté, et quelquefois ça suscite de la jalousie ou de la critique ou de toutes sortes de choses. Et cet homme, c'est le cas de Simon de Cyrène. Ah oui, vous connaissez l'histoire. Hein. C'est un homme qui est écrasé. C'est pas lui qui l'a choisi. Il est forcé et contraint. Et quelquefois, il y a des situations dans notre vie où nous sommes forcés et contraints. La pauvre femme dont nous parlions, qui était courbée depuis 18 ans, c'est pas elle. Il y avait un agent extérieur qui l'avait mis dans cet état. Là, nous voyons que pour Simon de Cyrène, c'est pas lui qui a dit « Moi, je voudrais porter la croix de Jésus parce que ça me fait plaisir. Hein. Je voudrais quand même qu'on se souvienne de moi dans toute l'histoire. » C'est pas lui. Hein. Il nous a dit « Garbonnet des champs » et puis on lui a dit, les soldats romains qui étaient là, ou je ne sais pas quel soldat, ils lui ont dit « Maintenant, toi, tu arrêtes, on t'arrête et tu vas porter la croix de Jésus. » C'est tout. Eh bien, il y a des situations comme ça dans la vie des hommes à l'extérieur, mais dans la vie des chrétiens, où les choses se sont faites comme ça et puis c'est tout. Hein. Mais on peut être écrasé, mais on peut se relever aussi. Et voilà. Et là aussi, un mal spirituel, il y a une réponse spirituelle. Une forme d'emprisonnement, quand dans Luc, au chapitre 23, il nous est donné un peu la condition, on va le relire parce que c'est bien de se rafraîchir un peu la mémoire, au verset 26. « Comme ils l'emmenaient, Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. » Pauvre, il a dû regretter de passer par là, lui. Hein. Ah oui, il était à la place du condamné en quelque sorte. Ouais. Et c'est un peu l'image de toutes ces lois, de toutes ces exigences, de ces commandements humains. Parce qu'il a été commandé, hein. On le voit bien. Hein. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et il y a des situations où nous avons besoin de pouvoir trouver un refuge. Oui. Jésus marchait devant lui. C'est bon signe. Hein. Derrière Jésus. Mais Jésus, elle a la mort. Et il se décide ici que moi aussi, je passe sur la croix. Il y avait peut-être de toutes sortes de pensées. Hein. Ben oui, il y a des situations comme ça où nous voudrions bien être libérés, mais nous ne pouvons pas être libérés. Après, je suppose que les soldats lui ont dit maintenant, rentre chez toi parce que hein, c'est plus toi maintenant. Hein. Oui, mais on a tellement chargé les gens, et particulièrement le monde religieux. Vous allez me dire, j'ai une dent contre le monde religieux. Mais le monde religieux, il ne concorde pas avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nous, on ne veut pas être des religieux. Et sans orgueil, c'est pas de dire, je suis spirituel, parce que quand on dit spirituel, c'est qu'on ne l'est pas. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut bien comprendre l'esprit de Jésus qui doit nous transformer, nous changer. C'est ça la grande différence, hein. Alors que ce soit cette pauvre femme courbée, que ce soit le pauvre Simon de Cyrène, hein, forcé et contraint, eh bien il y a des moments où il faut sortir de nos prisons et demander à Dieu qu'il nous délivre, qu'il nous enlève cette croix. La croix, c'est Jésus qui l'a portée, c'est pas nous. Hein. Maintenant, il nous est demandé de porter notre croix, ça c'est sûr. Mais la porter, parce que Jésus a vaincu sur la croix, c'est autre chose. Et la porter notre croix, c'est véritablement nous abandonner et nous livrer complètement et totalement entre les mains de Jésus, et cette croix-là, elle est légère. Autant elle était lourde pour Jésus, autant elle est légère pour nous. C'est-à-dire que même dans les problèmes, les difficultés, les calomnies, toutes sortes de choses, hein, c'est le sermon sur la montagne. Soyez heureux lorsqu'on vous dira toutes sortes de mal de vous. Ça vous fait plaisir, ça? Ah oui. Eh ben, il y a une joie qui est celle de l'esprit, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la joie de la victoire. Et puis, il y a un message d'espoir aussi. Et je vais bientôt finir. Ce message d'espoir, nous le trouvons à travers une simple petite phrase. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et vous connaissez bien l'événement que Jésus nous relate, « Perdu mais secouru ». Oui, « Perdu mais secouru ». C'est intéressant de le dire. Quand il nous est ramené, quand il nous est donné cette parabole sur la brebis perdue, il nous est simplement dit, mais il leur dit cette parabole, « Lequel de vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Et voilà ce qui est intéressant. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et voilà. Et nous pouvons venir à Jésus, il va nous porter. Nous étions perdus. Nous pouvons être, pas perdus au sens absolu, mais nous pouvons être vraiment dans une situation de misère morale, physique, enfin à travers tous les maux qui puissent exister dans l'humanité. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut savoir que quand nous sommes reconnus, que nous sommes vus perdus, le Seigneur nous prend et nous met sur ses épaules. Et je voudrais terminer sur le mot épaule, parce qu'il y a un sens à tout cela. Cette brebis perdue, elle est secourue, et il nous est dit que c'est avec joie que Dieu nous prend. Ouais, il nous prend tel que nous sommes, et aujourd'hui, nous les chrétiens, peut-être s'il y en a qui se battent encore avec toutes sortes, mènent encore la bataille, etc., eh bien, sachez une chose, c'est que le Seigneur vient vers nous avec joie, et avec cette même joie, il nous prend pour nous porter. Et il y a donc ce sens, parce que l'épaule, ça évoque l'image de la force, eh oui, l'image également du soutien, du secours, d'être élevé hors. Un petit enfant, quand son papa le prend et le serre bien là sur lui, et qu'il met sa tête sur son épaule, c'est que l'enfant est hors de danger, tout ce qui pourrait venir à son niveau. Eh bien, le Seigneur nous met au-dessus, comprenez? Il nous prend, comme la brebis, sur son épaule, et voire de consolation. Quand quelqu'un est dans la tristesse et qu'il repose sa tête sur l'épaule. Ouais. Vous savez, on le voit les jours de deuil. Hein, la famille, puis les amis, et quelquefois, on dit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais voilà, on sent qu'il y a un courant qui passe d'empathie, de compassion aussi. L'épaule, elle sert à beaucoup de choses. Hein. Eh oui, c'est l'image qui est prise. Vous savez que dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 10, il y a cette belle parole. Moi, j'aime bien ces mots qui nous sont donnés au chapitre 10 et au verset 27. Dieu fait la promesse à Israël, mais la promesse, elle est pour nous aussi, hein, écoutez bien. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de son épaule. Et il y a des choses qui nous pèsent sur les épaules. D'ailleurs, les gens qui sont découragés, vous avez remarqué? On dit, il a la tête basse. Ben, elle n'est pas plus basse, elle n'est pas au niveau des pieds. Hein. Mais c'est vrai que, quelquefois, on voit des gens, ça se voit. Physiquement, visiblement, ça se voit qu'ils sont pas bien. Et il nous est dit que là, eh bien, son fardeau sera ôté de son épaule et son joug de dessus son cou. Eh oui, le joug, c'est ce qui pèse. C'est ce qui entraîne. C'est ce qui met en assemblage, mais dans la peine, dans le labeur. Alors, dans ce jour, je veux dire que c'est aujourd'hui. Si tu crois, tu verras. Si tu crois ce soir, si nous croyons, si nous saisissons, si nous avons un quelconque besoin, et de dire, mais c'est pas en ce jour, un hypothétique en ce jour, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est à ce moment-là. Parce que vous savez, c'est pas les paroles d'un homme qui parle ce soir qui sont importantes. Ce qui est important, c'est que derrière les paroles qui sont des paroles de la Bible, il y a l'action du Saint-Esprit. Et là, ça change tout. C'est comme une guérison divine, hein, c'est pareil. Hein. C'est pas l'imposition des mains qui est un signe de considération et de mise en commun, finalement, de la peine de celui qui vient et qui est malade. Bon, ça, ce sont des symboles, des signes, on dira, davantage. Mais je dis que c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est pas en ce jour hypothétique. Non, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est à ce moment-là, parce que j'entends, croire, c'est possible. Et si je crois, eh ben, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Et puis, un texte semblable qui est dans le psaume 81 et au verset 7 à 8, j'ai déchargé, dit Dieu, c'est toujours pour Israël, mais bon, ça va pour nous, hein. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Tout à l'heure, c'était l'épaule qui était bien là, chargée. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Ah, c'est intéressant ça. Elle a lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Eh oui, ça c'est intéressant parce que lâcher la corbeille, vous savez, c'est une image qui était très fréquente pour les esclaves en Égypte. Ils travaillaient avec des grandes corbeilles. Et vous savez ce qu'il y avait dans les grandes corbeilles? Des pierres. Pour monter les édifices, pour faire les canaux, etc., etc. Ouais. Ils avaient les esclaves de l'Égypte, de l'Empire égyptien, hein. Ils avaient leurs mains, ils avaient leurs pieds, mais bon, voilà, pour transporter. Comme ça se voit, par exemple, dans certains pays déshérités d'Afrique, hein, d'Afrique ou d'Asie, hein. On les voit, les pauvres gens, là, ils sont dans les mines, et ils portent ça dans des grands récipients, dans des calebasses, hein, et ils portent, et ce sont des pierres qu'il y a dedans, lâcher la corbeille, c'est-à-dire que le fardeau, eh ben voilà, faut le déposer, tout simplement. Et quelles sont les pierres qu'il y a dans notre corbeille que nous essayons de soulever, que nous essayons de remuer, de bouger, et que nous n'arrivons pas? Quelles sont les pierres? Alors chacun peut répondre naturellement à cela. La conclusion, c'est un gage tout simplement de notre libération complète. Et je reviens et je termine. Quand il est dit, mais je vais peut-être en lire un petit peu plus là, voilà. Il nous est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire les temps où Jésus est venu, ça fait 2000 ans maintenant pour nous, on est des bénéficiaires, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi de toutes les problèmes, les fardeaux, les infortunes de la vie, la maladie, la dépression, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, hein, extérieur ou intérieur, qui fait que sa vie n'est pas bonne, afin que nous recevions l'adoption. Tiens, justement, on a parlé de fils. L'adoption, c'est quand quelqu'un rentre dans une famille et qui n'est pas de la famille, mais qui va devenir de la famille. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de Jésus qui nous dit « Père, Père ». Traduit en araméen, ça veut dire « Abba, Abba, Père ». Et ainsi, tu n'es plus esclave. Vous savez que vous n'êtes plus des esclaves? Ouais. Oh, j'ai jamais été esclave. Méfiez-vous, hein, parce qu'il y en a qui l'ont dit et ils se sont fait drôlement embarrer, hein. Jésus leur a pas fait de cadeau, hein. Mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et ils avaient vraiment la mémoire courte, hein. Ils ont toujours été esclaves, finalement. Alors, mais tu n'es plus esclave, mais tu es fils ou tu es fille. Et si tu crois que tu es, alors à ce moment tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce encore ce soir avec sa parole. Elle est formidable, sa parole, hein. Mais moi, je la crois de tout mon cœur et je vous invite à la croire aussi et à la saisir. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que ta parole est la vie. Parce que ta parole est la liberté. Parce que ta parole est la délivrance. Elle libère les hommes. Et Seigneur, ce que nous pouvons dire, nous, ce soir, en ce moment-là, c'est qu'hier, nous étions esclaves. Esclaves dans notre ignorance. Esclave dans ce que était notre vie naturelle. Et puis un jour, au temps marqué, eh bien, tu nous as révélé Jésus-Christ, il est venu. Nous l'avons connu selon la chair, religieusement, mais aujourd'hui nous le connaissons spirituellement. À travers, eh bien, ces passages obligés tels que la repentance, tels que le choix à faire, tels que la conversion, tels que la nouvelle naissance et la vie de l'esprit. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et c'est tout simple petit verset que nous avons commenté ce soir. Eh bien, que nous ne sommes plus esclaves, que nous sommes fils et que l'héritage nous appartient. Eh bien, nous invite à décharger sur toi tous nos fardeaux, car tu prends soin de nous. Merci Seigneur. Tu bénis Seigneur ta parole. Bénis mes frères et mes sœurs qui l'écoutent. Accorde-nous ta grâce, Père éternel, pour tous ceux qui l'écouteront encore, qui auront l'occasion, Seigneur, d'ouvrir la Bible, ou d'entendre tout simplement, eh bien, ce message, et qu'ainsi ils puissent se tourner vers toi, et déposer à tes pieds tout ce qui ne va pas dans leur vie. Et toi, tu nous fais la promesse qu'en effet, Seigneur, tu es capable de nous donner une vie autre, une vie heureuse, une vie dans la paix, une vie joyeuse. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter, d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.